Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Installez-vous, c'est le débat du jour.
RFI.
Lafarge en Syrie, Total en Birmanie, deux exemples ce soir pour tenter de comprendre comment et pourquoi deux grands groupes français maintiennent ou ont maintenu leurs activités dans des pays en guerre ou en zone de conflit, alors que ce soit par intérêt économique, pour respecter les engagements avec les États ou alors pour assurer la continuité du service. Nous nous interrogerons ce soir sur les mécanismes qui poussent les multinationales françaises à poursuivre leurs activités en dépit des exactions, des actes de terrorisme ou encore des coups d'État. Une entreprise française peut-elle continuer à investir dans un pays en guerre? Ces fleurons de l'industrie française sont-ils au-dessus des lois? Faut-il légiférer davantage? Autant de questions que nous allons poser à nos trois invités.
RFI.
Sylvie Matelli, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et directrice adjointe de l'IRIS, auteur du livre qui vient de paraître intitulé « Géopolitique de l'économie » chez Erol. Nathalie Belloste, bonsoir.
Bonsoir.
Professeure associée à Grenoble École de Management, vous êtes aussi l'une des organisatrices du festival de géopolitique annuel qui se déroule à Grenoble. Et puis en studio ici à Paris, Franceline Lepany, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Présidente de l'ONG Sherpa. Alors d'abord, l'exemple de Lafarge en Syrie. Dans cette affaire, le cimentier français est soupçonné d'avoir versé entre 2013 et 2014, via une filiale, près de 13 millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'organisation État islamique, afin de maintenir l'activité de son site de Jalabiya, alors que le pays était ravagé par la guerre. L'affaire n'est toujours pas jugée. Aujourd'hui, 8 juin 2021, la Cour de cassation a examiné un pourvoi concernant l'annulation de sa mise en examen pour, je cite, « complicité de crimes contre l'humanité ». Un pourvoi déposé par plusieurs ONG, dont Sherpa, que vous représentez, Franceline Lepany. Alors, en guise d'introduction, quel est l'enjeu de ce pourvoi?
Alors, ce pourvoi intervient à la suite d'une décision d'un long processus judiciaire qui a été engagé par Sherpa et une autre ONG allemande. En 2016, nous avons porté plainte effectivement contre Lafarge et cette affaire a abouti d'abord à une instruction, puis à une décision de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Et cette chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a considéré que, outre le fait qu'il y avait un problème de recevabilité au niveau des ONG, mais c'est pas le propos principal aujourd'hui, qu'il convenait d'annuler la mise en examen de Lafarge en tant que personne morale et non pas uniquement ses cadres exécutifs pour complicité de crimes contre l'humanité. Par contre, la chambre d'instruction maintenait la mise en examen pour financement de terrorisme et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. À la suite de cette décision de la chambre d'instruction, il y a eu des pourvois divers et variés, tant venant des ONG que de Lafarge. Et aujourd'hui, il y a eu un débat très intéressant devant la Cour de cassation, qui était de savoir principalement si Lafarge pouvait être complice d'un crime contre l'humanité. Pour ce qui est du financement terroriste et mise en danger délibérée de la vie d'autrui, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. En tout cas, je l'espère. Et cette décision sera donc rendue le 15 juillet. Elle est extrêmement attendue parce que c'est, je crois, la première fois que, sur le terrain de ces infractions, la responsabilité pénale des entreprises en tant que personne morale, outre les cadres exécutifs, a été retenue.
Sylvie Matelli, comment expliquez-vous que le cimentier ait continué à exploiter la cimenterie de Jalabiya alors que le pays était en guerre?
Je pense que c'est des entreprises qui... Alors c'est assez étonnant du côté de Lafarge, parce que Lafarge c'était une entreprise qui était assez en pointe sur ces questions-là, qui avait l'une des toutes premières à avoir signé le pacte mondial. Le pacte mondial, c'est ce pacte qui avait été proposé par Kofi Annan en son temps, et justement définissant un certain nombre de responsabilités des entreprises. Mais je crois que les entreprises ont largement sous-estimé en fait combien la mondialisation et le fait qu'elles s'activent collectives partout sur la planète amplifiaient leurs responsabilités et en faisaient des objets politiques en réalité. Et donc au-delà en fait de leur activité et de leur business, qu'il était très important qu'elles soient plus regardantes des situations politiques, des situations sociales dans les pays dans lesquels elles œuvrent et qu'elles tentent de prévenir la violation de droits de l'homme, des crimes contre l'humanité et autres, dont elles pourraient être considérées à juste titre responsables s'ils venaient à se produire. Et dans le cas de l'affaire Jean Syrie, on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire finalement une sous-estimation de ce qui est en train de se passer avec la mise en danger de la vie de leurs salariés, mais aussi le financement de gens qui vont commettre des crimes contre l'humanité et quelque part l'impression que c'est normal, on paye des impôts quand on est installé dans un pays, au fond c'était perçu comme une forme de taxation et pas du tout comme du financement direct d'activités extrêmement graves.
Et peut-on parler de défaillance organisationnelle dans le cas de la Farge en Syrie, Nathalie Bellost ?
Oui, alors je pense qu'il y a quand même eu un enchaînement de prises de décisions qui ont été effectivement assez questionnables. Mais je suis d'accord avec ce que dit Sylvie Matelli quand elle dit bon, voilà, il y a quand même eu un problème de compréhension globale des choses. Mais c'est une compréhension globale qui a mis du temps à venir. C'est-à-dire qu'il y a un des acteurs de cette histoire qui a comparé ce qui s'est passé en disant c'est un peu comme la grenouille qui est dans une casserole d'eau froide et que vous mettez à bouillir. Donc Lafarge, pourquoi est-ce que Lafarge est restée au départ? C'est parce qu'il y a eu un investissement qui était de 680 millions d'euros. Et ça s'est fait à partir de 2007 et en 2010 l'usine a été inaugurée et en 2011 la guerre civile éclate. Donc forcément à ce moment-là 680 millions d'euros ça représente une grosse somme pour Lafarge, c'est le plus gros investissement à l'époque à cette période-là pour Lafarge. Donc il y a déjà le fait de se dire bon, on a investi, on va pas peut-être tout de suite partir. Et comme le contexte au départ bien est malin en 2010, il faut quand même se remettre encore une fois dans le contexte, bien malin est celui qui pouvait dire à l'époque, dix ans plus tard, on va être toujours dans la même situation. Bien au contraire, beaucoup de spécialistes disaient finalement, Bachar el-Assad ne va pas tenir très très longtemps. En 2010, il faut retourner dans ce qui était dit dans la presse, on ne donnait pas forcément très très cher de sa peau. Et donc, le contexte analysé parce que les uns et les autres peuvent savoir, plus cette décision d'investissement, c'est que, au départ, on se dit, on va rester. C'est plutôt sur la suite où, effectivement, on peut se poser des questions.
La métaphore de la grenouille, vous partagez cet avis, Franceline Lepanier ?
Pas du tout. Je pense que l'affaire, je n'étais pas aussi naïve que cela. D'abord parce que depuis 2011, déjà l'ONU avait pris des résolutions concernant la Syrie et déjà les entreprises étrangères avaient quitté la Syrie parce que compte tenu de la situation. Et je tiens à préciser que dans le temps, parce que tout ça s'est passé entre 2012 et 2014, dans un premier temps, Lafarge quand même a demandé à ses salariés européens de quitter l'usine pour la laisser effectivement aux seules mains des travailleurs syriens qui se sont trouvés dans des conditions de travail, et c'est pour ça que notamment Lafarge est poursuivie pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, parce que les travailleurs syriens qui sont restés sur place ont eu des tas de problèmes que je ne vais pas énumérer ici, mais il est évident que Lafarge connaissait très bien qui était Daesh, qui Daesh d'ailleurs avait déjà été sur le territoire de l'usine en question, et que pour bénéficier notamment de passe-droit, de passage des camions, Lafarge savait très bien à qui elle s'adressait quand elle a versé de l'argent, car je vous rappelle que ce sont des sommes assez astronomiques qui sont en jeu, et il est évident que Lafarge était tout à fait au courant de ce qui se passait au niveau de sa filiale.
Alors, dans j'ai jamais dit le contraire.
Allez-y, développez.
Non, je suis désolée, j'ai jamais dit le contraire. C'est pas ça le problème, en fait. C'est que comment est-ce qu'on en arrive à une mauvaise prise de décision? Il y avait, et je suis d'accord avec vous, une conscience très claire quand même du contexte. Et finalement, le paiement, il n'y a pas que Daesh qui est concerné. Finalement, Lafarge a continué à payer, enfin à payer Daesh, mais avant avait payé d'autres groupes pour rester. Donc là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la pression est montée petit à petit et qu'ensuite, il y a eu forcément une interprétation de ce qui se passait qui a été globalement assez mauvaise, mais consciente.
Seulement, je voudrais quand même donner une précision. Je pense que si Lafarge est restée envers et contre tous, c'est parce qu'elle y avait un intérêt. Était-elle d'ailleurs, on ne sait pas encore, soutenue par l'État français, mais il y avait aussi en perspective une possibilité de marché, notamment dans un pays comme la Syrie, qui était à l'époque, si je puis dire, un pays à faible gouvernance, et que ou à gouvernance plus ou moins turbulente. Il est évident que Lafarge, en restant, espérait bien pouvoir obtenir le marché de la reconstruction de la Syrie après, effectivement, la guerre. Je pense que c'est pas de toute façon innocente que Lafarge est restée envers et contre tout. Et c'est la seule entreprise, d'ailleurs, européenne qui soit restée sur place.
Sylvie Matéli, oui, allez-y.
Vous pouvez rajouter un élément qui est que à partir de la fusion entre Lafarge et Holcim a été annoncée tout début 2014 et que une fusion, ça s'annonce une fois qu'on a déjà en gros négocié. Donc ça faisait déjà plusieurs mois, voire peut-être même une année, que ça c'était dans les tuyaux et que, eh bien, pour que la mariée soit très jolie, il faut la vendre avec ses plus beaux atours. Donc et si vous la vendez avec un atour en moins de 680 millions d'euros, ça fait des ordres.
C'était Nathalie Bellost. La parole à Sylvie Matéli, directrice adjointe de l'IRIS.
Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit et qui est fondamental en fait. C'est vrai que... et c'est particulièrement vrai en France en plus, et c'est probablement pour ça que les entreprises françaises sont souvent mises en porte-à-faux sur ces sujets-là, c'est que aujourd'hui, l'entreprise considère qu'elle est là pour faire du business, pour faire des profits, et elle se pose assez peu de questions sur la façon dont elle les fait, elle les obtient, et quand elle commence à se poser des questions, elle se retourne vers les pouvoirs publics et vers l'État. Et si l'État est au moins aussi démuni que l'entreprise pour donner quelques réponses que ce soit, eh bien, finalement, l'entreprise continue à se faire ce qu'elle sait faire, du business. Il faut bien qu'on se rende compte que le monde change et de façon encore plus rapide ces derniers temps que par le passé. Et on ne va pas pouvoir continuer à agir comme ça. Et l'entreprise va vraiment devoir adopter une posture politique et va vraiment devoir se positionner et prendre des décisions d'affaires, de rester ou de ne pas rester dans un pays, d'investir ou pas dans un pays en prévision, qui sont au départ des décisions politiques et sont des décisions prises par les pouvoirs publics, parce qu'on est dans un monde global, parce qu'au-delà des États aujourd'hui, vous avez des acteurs non étatiques. Alors on parlait des terroristes et de Daesh, mais on peut aussi parler des ONG, des sociétés civiles. On peut aussi parler de toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les financiers ou les salariés. Et donc l'entreprise, elle doit rendre des comptes à tous ces acteurs et elle doit prendre ses responsabilités, ce que pour l'instant elle ne fait pas.
Alors justement, pour aller un peu plus loin avec vous, Sylvie Matéli, dans un monde dans lequel les entreprises sont devenues des acteurs de géopolitique à part entière, est-ce que Lafarge, dans son cas, n'a pas sous-estimé son rôle politique ?
Ah, très clairement, elle n'a même pas envisagé son rôle politique. Vous savez, dans les années 70, et c'est ce qui a ouvert la voie à la mondialisation, vous aviez Friedman, l'économiste monétariste qui a obtenu le prix Nobel, qui expliquait que la seule responsabilité des entreprises, c'était de faire des profits. Et donc les entreprises, elles ont surfé sur cette vague. Mais en fait, le paradoxe de ces choses-là, c'est que dans un monde global, vous agissez dans des pays où les choses sont carrées, où il y a des réglementations, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, et où finalement vous respectez ces réglementations, et si vous respectez la règle, vous êtes à peu près dans les clous, et puis vous vous retrouvez à agir dans des pays où vous allez violer ces règles-là. Et au fond, aujourd'hui, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que vous devez rendre des comptes par rapport à ces violations, parce que tout se voit, tout se sait, et c'est à mieux à la limite, et que la conscience des sociétés civiles ne fait que s'amplifier. Moi, j'ai beaucoup suivi les affaires de corruption, parce que ça a quand même commencé là-dessus. Aujourd'hui, plus aucune entreprise n'agit en toute impunité dans ce secteur-là. Et autre question qui est intéressante, si les États-Unis avait menacé Lafarge de sanctions pour rester en Syrie, vous pensez que l'entreprise serait restée aussi longtemps ? Donc vous voyez, il y a un petit peu deux poids, deux mesures, c'est-à-dire il y a des acteurs qui vous font peur et d'autres un petit peu moins en réalité.
Ce qui nous amène à parler du rôle du gouvernement français dans cette affaire. D'après vous, les autorités étaient-elles au courant des agissements de Lafarge ? À cette époque, c'était Laurent Fabius qui était le ministre des Affaires étrangères, Franceline Le Panier, présidente de l'ONG Sherpa.
Je sais que M. Laurent Fabius a dû être entendu par les juges d'instruction. C'est vrai que les dirigeants de Lafarge se réfugient un peu derrière été soutenus dans ce sens-là par le gouvernement français, mais c'est pas actuellement effectivement l'angle principal du dossier. Voilà.
Le rôle des politiques au sens propre dans ce cas-là, Nathalie Bellost.
Alors en fait, si on parle de façon plus générale et pas uniquement sur Lafarge, parce que pour l'instant on ne sait pas et ce sera jugé par la justice, mais ce qu'on sait, c'est que quand des grosses entreprises vont à l'étranger, il y a automatiquement une relation avec la représentation française sur place, c'est-à-dire les ambassades. Et généralement, le rôle aussi des ambassadeurs, c'est de discuter avec ces parties prenantes importantes que sont les grandes entreprises françaises sur le territoire, les plus petites aussi. Il est quand même habituel de discuter et de que les uns et les autres se rencontrent. Donc on peut pas dire qu'il y a là-dessus sur ce qui s'est passé en Syrie, c'est autre chose. En plus, on était dans une situation de guerre en particulier, mais que l'État français cherche aussi à savoir ce que font ces entreprises et à les soutenir de façon très très générale, ça c'est tout à fait commun.
Vous écoutez le débat du jour avec Sylvie Matelli, Nathalie Bellost et Francine Le Pagny.
Le débat du jour.
L'exemple à présent de Total en Birmanie. Total est devenu un acteur clé de l'économie birmane à partir de 92, en commençant alors à développer une partie de champs gaziers de Yanada, situé à environ 60 km des côtes birmanes. Depuis le dernier coup d'État du 1er février, Total stoppe ses projets en cours. En revanche, l'activité de production de gaz, qui fournit notamment la moitié de l'électricité de près de 5 millions d'habitants de la ville de Rangoon, est maintenue. Dans une tribune du Journal du Dimanche en date d'avril 2021, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, explique pourquoi le géant de l'énergie ne se retire pas de Birmanie après le coup d'État militaire. Il s'agit, assure-t-il, de ne pas mettre en danger les salariés ni les Birmans. Est-ce pour vous une position défendable, Franceline Le Pagny?
J'ai vu effectivement que Total considère qu'il a une dette, si je puis dire, vis-à-vis du peuple birman, notamment dans le cadre de la production du gaz et d'électricité, sauf que effectivement, il paye des taxes et des parts à des entreprises qui sont gouvernementales, qui sont tellement liées aux militaires. Et c'est vrai que il y a aussi un autre problème dans ce dossier, c'est que les versements auxquels procédait Total dans ce pays passaient par, là aussi, des intermédiaires, des paradis, on ne sait pas encore s'ils étaient fiscaux ou non, mais qui posent quelques problèmes. Donc, il y a deux niveaux dans ce dossier. À ma connaissance, c'est le problème de la situation actuelle de la Birmanie et la liaison avec les militaires, étant précisé que Total est un peu seul sur ce sujet, puisque beaucoup d'entreprises ont décidé, effectivement, de se retirer de la Birmanie pour ne pas apporter leur soutien à l'armée.
Une position défendable, Nathalie Bellost? Nathalie Bellost, en attendant qu'on la retrouve en direct sur RFI. Sylvie Matelli, on sent bien que Total cherche l'équilibre en ce moment en Birmanie.
Oui, tout à fait. Et Patrick Pouyanné a parlé de dilemme, parce qu'effectivement, il y a d'un côté la volonté de protéger ses salariés. La volonté de protéger ses salariés aussi, il y a un argument que je trouvais intéressant. C'était cet argument qui consistait à dire, mais si on ne payait pas ce qu'on doit à la junte, au fond, c'est les salariés de notre entreprise ou les dirigeants de cette filiale qui pourraient être inquiétés en Birmanie par la junte, parce que légalement, on doit payer ça. C'est un argument qui est très... qui est très discutable aussi. Donc il y a ce dilemme entre fournir l'électricité, rester sur place et puis quitter parce qu'on ne veut pas financer cette jeune. C'est vrai que on a un peu l'impression d'une procrastination, c'est-à-dire on tente de rester sous l'argument de protéger, mais que se passera-t-il si dans quelques mois ou dans quelques années, on s'aperçoit qu'avec cet argent versé par Total dans le cadre de ses activités sur place, des crimes ont été commis en fait. Et là, pour l'entreprise, c'est extrêmement important. Et finalement, c'est assez c'est assez peu traité, c'est un argument qui est assez peu repris par M. Pouyanné lorsqu'il s'est justifié, alors que c'est un argument fondamental. C'est quelque chose qui peut nuire à votre réputation, qui peut in fine vous faire perdre beaucoup d'argent si on est sur des questions de business et de profit.
Franceline Le Panier, là, vous voulez réagir?
Oui, on peut s'étonner que Total procède ainsi en Birmanie parce que depuis 2017, il est tenu par le devoir de vigilance, c'est-à-dire qu'il doit établir chaque année un plan de vigilance qui permet effectivement d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves qui pourraient survenir dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire les fournisseurs, les sous-traitants. Et il s'agit là quand même l'objectif de cette loi que auquel d'ailleurs Total a participé. Peut-être que Lafarge, à l'époque, elle n'existait pas. On n'aurait peut-être pas procédé comme il a procédé s'il avait été obligé de se soumettre à ce plan de vigilance, parce que maintenant, il s'agit de demander aux entreprises de revenir dans le champ social et environnemental et de devenir redevable devant dans la justice des impacts négatifs de leur activité sur un certain nombre de sites et aussi à l'étranger.
Je précise que Total a annoncé depuis qu'une partie des actionnaires du gazoduc de Yanada ne percevrait plus de versement à partir du 1er avril. Patrick Pouyanné qui s'engage aussi à verser aux associations pour les droits humains en Birmanie l'équivalent des taxes dont l'entreprise va s'acquitter. Nathalie Bellost, une réaction?
En fait, sur ces questions, je rejoins ce qui s'est dit, c'est-à-dire la position de Total est difficilement tenable, d'autant plus qu'en France, on a la loi Sapin 2 et cette loi du devoir de vigilance qui oblige à forcément prendre en considération ces questions non seulement de droits de l'homme et ces questions environnementales. Donc la position et le fait qu'ils aient suspendu les versements de dividendes était une position assez logique, somme toute.
Quels sont pour vous les garde-fous qui seraient nécessaires de mettre en place pour éviter de telles situations, Sylvie Matelli?
Alors, ils sont en train de se mettre en place. On vient de parler du devoir de vigilance français au départ depuis 2017 et qui est aujourd'hui en train d'être transposé en Allemagne et puis même dans un certain nombre de pays européens. On a parlé de la loi Sapin 2 et de la lutte contre la corruption. On pourrait parler de la loi Pacte aussi qui définit un certain nombre de principes de responsabilité de l'entreprise, la possibilité pour l'entreprise de se déclarer entreprise à mission. Donc, on avance dans cette direction. Ce qui va être assez intéressant dans les mois qui viennent, c'est que moi j'ai l'impression que l'administration américaine a compris que ces logiques de responsabilité, de conformité, de responsabilité sociétale de l'entreprise, ce qu'on appelle RSE communément, est un moyen aussi de se repositionner dans l'échiquier international face à une Chine qui est jugée le pays qui viole les droits de l'homme, qui fait travailler de force, voire qui anéantit les Ouïghours, etc., etc. J'ai l'impression que côté américain, on est en train de saisir ce dossier et Dieu sait qu'on est efficace aux États-Unis quand on saisit ce type de dossier. Donc, nul doute que les entreprises vont avoir de vrais défis à le relever dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent et les années qui viennent, si c'est le cas, parce que on l'a vu sur tous les dossiers, on l'a vu avec la corruption, l'extraterritorialité des lois américaines. Lorsque les États-Unis s'emparent de ce type de sujet, ça peut faire très 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 mal aux entreprises eu égard aux intérêts qu'elles ont dans ce pays.
Y a-t-il un sentiment d'être au-dessus des lois lorsque l'on est un fleuron de l'industrie française, Franceline Le Panier?
Peut-être que ça l'a été. Je suis pas sûre que maintenant ce soit totalement juste, dans la mesure où notamment le dossier Lafarge est quand même un élément d'alerte. Hein, c'est-à-dire que maintenant les entreprises savent qu'elles peuvent être poursuivies, non pas seulement leurs dirigeants et sur lesquels ils ont tendance souvent à se défausser, mais en tant que personne morale, et que effectivement Lafarge est quand même là aussi fleuron des poursuites judiciaires, donc pour qui peuvent concerner des entreprises. Et c'est vrai que ça peut être très grave si Lafarge venait à être mise en examen puis après éventuellement condamnée pour complicité de crimes contre l'humanité, financement de terroristes et mise en danger délibéré de la vie d'autrui. Je pense que ce sont des infractions assez fortes pour qu'on s'y attarde un tant soit peu.
Nathalie Bellost, vos préconisations pour éviter de telles situations?
Alors, en fait, il y a quand même une responsabilité, un apprentissage derrière vis-à-vis de ces affaires. C'est que dans ces situations, c'est comment prendre notamment la question de... Enfin, comment faire l'analyse des contextes dans lesquels on est. C'est une première responsabilité, on en a discuté tout à l'heure. Les entreprises, elles sont armées d'une certaine façon pour comprendre les territoires dans lesquels elles sont, mais la question est, veulent-elles pousser jusqu'au bout la logique? Alors, ce qui les fait bouger, c'est notamment la pression publique portée, bien heureusement, par les ONG et les populations. Mais c'est en interne aussi où il y a les compétences qu'il faut développer aussi vis-à-vis de ces questions-là. Et là, c'est une réelle responsabilité organisationnelle de pouvoir faire en sorte que les gens soient beaucoup plus sensibilisés à ces questions et qu'on ne reporte pas ces questions de risques qu'on analyse comme des risques externes uniquement par rapport à un contexte. C'est aussi l'analyse du contexte par les gens qui travaillent pour ces entreprises qui est important.
Vous vouliez réagir, Franceline Le Panier, pour l'ONG Sherpa.
Oui, alors justement, je pense que le rôle de d'ONG comme Sherpa, c'est justement d'éviter des carences dans la reconnaissance des responsabilités des entreprises. D'une part, parce que souvent, les personnes physiques n'ont pas la possibilité de le faire, les communautés, les salariés. Et puis, qu'il y a aussi, à l'autre bout de la chaîne, le parquet qui hésite souvent à engager des poursuites. Et l'avantage d'ONG, j'en suis la présidente, certes, je peux que la vendre de Sherpa, effectivement, c'est justement de pouvoir permettre à la société civile de s'exprimer dans ce genre de débat quand le parquet ne veut pas prendre d'initiative et quand les personnes physiques ne peuvent pas le faire.
Sylvie Matelier, est-ce que le cadre législatif est assez clair pour éviter ce genre de situation?
Le cadre législatif s'améliore, il y a encore des progrès à faire, mais je rejoins ce qui vient d'être dit précédemment, c'est que il y a besoin d'un cadre effectivement et un cadre qui s'améliore. Il y a aussi besoin d'une posture politique de la part, je pense par exemple aux institutions de l'Union européenne, c'est que il y a aussi, c'est pas juste de la réglementation, c'est aussi une posture politique, la défense de valeurs, comme ça si bien le faire nos partenaires de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis pour l'entreprise, il y a aussi un changement de logiciel culturel pour comprendre ce qui se cache derrière toutes ces contraintes, parce qu'elle les perçoit souvent comme ça, ces contraintes réglementaires. Bah, c'est un changement de modèle, c'est un changement de logiciel, c'est une autre façon de penser leur business model, en fait, de construire leur modèle d'affaires, en intégrant dès le départ tous ces enjeux de contexte, d'acteurs, de responsabilité des acteurs avec le devoir de vigilance dans leur quotidien d'une part et dans leur stratégie également.
Franceline Le Panier.
Oui, je pense que on a changé un peu de logiciel, c'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait se contenter effectivement des déclarations d'intention de la part des entreprises. C'est ce qu'on appelle effectivement le droit mou. Maintenant, on est rentré un peu dans le droit dur, c'est-à-dire que il y a des poursuites judiciaires qui sont possibles, il y a un devoir de vigilance qui doit être respecté et par moment, effectivement, le contentieux peut être on peut le regretter, mais c'est comme ça. Une arme qui permette de demander aux entreprises d'être vigilantes à leur développement, notamment, surtout dans les pays extérieurs, à la France, où il n'y a pas une faible gouvernance, où les communautés n'ont pas la possibilité de se défendre et où, au contraire, les entreprises devraient redoubler l'intention, notamment au titre du respect des droits humains.
Merci à toutes les trois d'avoir participé à ce débat du jour sur Radio France Internationale. Sophie Matelier, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, auteure du livre qui vient de paraître intitulé « Géopolitique de l'économie » édité par Erol. Nathalie Bellost, vous étiez à Grenoble, professeure associée à l'école de management. Vous êtes aussi l'une des organisatrices du festival de géopolitique qui s'est tenu cette année en ligne à Grenoble. Et puis Franceline Le Panier, présidente de l'ONG Sherpa. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. La mise en onde aujourd'hui du débat du jour était signée Jean-Philippe Thury, documentation Julia Denat, coordination Florence Ponce, rédaction en chef Jacques Alix. Quant à moi, Adrien, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau débat. Dans quelques secondes, sur la radio du Monde, c'est un nouveau journal qui vous attend.
du 11 juin au 11